Voilà, chers amis, nous allons ouvrir notre Bible dans l'Ancien Testament tout d'abord, dans Jérémie au chapitre 22. Jérémie chapitre 22, pour lire les reproches de l'Éternel au roi Joachim. Jérémie 22, verset 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit : je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre et la peint en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre ? Ton père, le roi Josias, ne mangeait-il pas ? Ne buvait-il pas ? Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel ? Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 20, Évangile selon Matthieu, au chapitre 20, les versets 26 à 28. Matthieu 20, 26 à 28. Bon, nous allons déjà prendre le verset 25. Jésus appela ses disciples, les 12, et dit : vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et enfin, un verset dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, la conclusion d'une sorte de crible de la conduite chrétienne développée au long des chapitres précédents, 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous avons considéré dans un premier temps, dans notre introduction mercredi soir, la contestation du travail et ses causes. Nous avons ensuite considéré l'appel de Dieu au travail, la pénibilité du travail à cause du péché, le travail et la paresse, et le travail et l'idolâtrie. Et après toutes ces considérations générales, mais dans lesquelles nous avons pu, pourquoi pas, nous reconnaître dans tel ou tel aspect, nous avons donc commencé, comme cela a été rappelé il y a un instant, à considérer Jésus-Christ comme le Seigneur dans ma vie professionnelle. Nous touchons depuis la seconde partie de notre étude hier soir aux implications pratiques de cette affirmation. Qu'est-ce que cela veut dire, Jésus-Christ, Seigneur, dans ma vie professionnelle? Et nous avons hier soir déjà évoqué un certain nombre d'aspects. Nous avons aussi répondu à quelques questions se trouvant dans la boîte aux questions, notamment à des questions concernant la place de la femme dans la vie professionnelle. Je ne voudrais pas redire ce que j'ai partagé hier soir, qui était développé, mais simplement brièvement y revenir à cause d'une question que j'ai sous les yeux, qui a été mise dans la boîte hier soir. Je ne voudrais pas l'escamoter. Existe-t-il des arguments bibliques pour justifier la méfiance, entre parenthèses, dans certains milieux évangéliques, vis-à-vis de l'activité professionnelle des femmes, même à mi-temps, entre parenthèses, une veuve, seule responsable de la charge de famille, est bien obligée de travailler? Je ne reviendrai pas ce soir sur l'argumentation biblique fondamentale. Je crois que nous avons été hier soir suffisamment clairs sur les principes bibliques. Nous n'avons pas fait hier soir une étude biblique du sujet. Il nous aurait fallu la soirée. Mais nous avons remarqué ensemble que la parole de Dieu contient des principes bibliques et même des textes très précis à ce sujet. Mais j'aimerais aller donc simplement un peu plus loin, puisque nous avons évoqué hier soir ces principes concernant la vocation féminine, l'identité féminine et ses corollaires. Nous avons posé un certain nombre de questions. Mais j'aimerais tout d'abord souligner que il va de soi qu'il est des situations exceptionnelles qui nécessitent un traitement exceptionnel. Et donc qu'on peut tout à fait concevoir dans certaines situations qu'une épouse ou qu'une veuve seule responsable des charges de famille travaille. Elle aura parfois besoin d'ailleurs d'être entourée, d'être conseillée dans le cadre de l'église locale, de manière à ce que, surtout si elle est seule pour élever ses enfants, elle puisse travailler sans que son activité professionnelle l'empêche de s'occuper de ses enfants. Parce que le risque est là aussi. Il est évident que nous vivons aujourd'hui dans une situation très problématique et de plus en plus problématique. Vous savez que le nombre de foyers monoparentaux où les enfants sont élevés par un seul parent s'élève très très vite et très impressionnant, et de nombreux foyers monoparentaux sont en fait dirigés par une maman seule. Et bien sûr, cela signifie qu'il y a derrière des problèmes d'ordre financier. Et disons-le, je l'ai souvent pensé ces derniers soirs, le péché, le chaos engendré par le péché crée des situations qui sont délicates à gérer. Et il faut, hélas, parfois, à cause des désordres engendrés par le peu de place ou l'absence de place laissée à Dieu, bien, on est obligé de vivre des situations qui devraient en tout cas rester exceptionnelles, qui ne doivent pas devenir la norme. Le problème, c'est que nous, disciples de Christ, nous avons tendance trop facilement à considérer que ce qui est exceptionnel, finalement, est la norme, parce que de plus en plus tout le monde le fait. Je l'ai déjà dit hier soir. Mais je pense que la méfiance, puisque le terme est utilisé dans cette question, la méfiance est liée soit à des positions extrêmes de la part de la personne qui est méfiante, des positions qui alors ne se défendent pas sur le terrain biblique, Il faut être sûr de toujours pouvoir justifier nos attitudes par les Écritures. La méfiance peut être aussi engendrée par une réaction contre les excès actuels. Il est normal que, face à tous les excès actuels, et quand on voit les dégâts engendrés par la manière dont les enfants sont livrés à eux-mêmes aujourd'hui, il est tout à fait normal que des croyants, d'ailleurs, quels que soient les milieux évangéliques, c'est pas une question de milieu évangélique, c'est une question de proximité de Dieu et de sa parole. Je crois qu'il faut mettre là les choses bien à leur place. Quand on se tient près de Dieu et de sa parole, on est mal à l'aise face au laisser-aller actuel dans l'éducation des enfants et qui trop souvent sont liés au fait que la vie professionnelle passe au premier rang, l'acquisition d'un certain niveau de vie passe au premier rang, la nécessité de payer des traites à longueur de mois avec un budget en déséquilibre, etc. Tout cela passe au premier plan, et comme je l'ai dit hier soir, il est dramatique de voir des enfants qui souffrent terriblement des conséquences de tout cela. J'en ai dit suffisamment hier soir pour ne pas aller au-delà ce soir, mais je tenais quand même à apporter un intérêt à cette question et à préciser qu'il est des situations exceptionnelles qui nécessitent un traitement exceptionnel et, je dirais, dans toute la mesure du possible, à durée limitée. Tout cela doit être vu avec le sens des nuances dans la présence de Dieu et avec le secours des aînés dans la communauté locale. Alors nous allons donc vers les implications pratiques déjà considérées hier soir. Et nous avons hier soir souligné fortement l'importance de glorifier Dieu par la qualité de notre travail. Travail bien fait, soigneux, consciencieux, honnête, vécu dans un contexte de vie morale agréable à Dieu. Nous avons vu ceci dans l'histoire de Joseph au chapitre 39. Dieu était avec lui dans sa vie professionnelle, dans un cadre extrêmement difficile à vivre, un cadre d'injustice. Il n'avait rien fait pour être là, notre ami Joseph. Mais Dieu était avec lui dans son travail parce que Joseph n'était pas dans le lit de l'adultère. Et il y a dans les Écritures, ici et là, des corrélations certaines de ce genre. Nous avons évoqué le concept du poids juste, présent très souvent dans l'Ancien Testament, donner la quantité qu'il faut pour un juste prix, donner la qualité convenable pour le prix payé, conformément à la publicité faite. Nous y reviendrons, notamment par rapport à une question qui a été posée. Nous avons vu l'attitude de Zachée, qui règle certains problèmes de malhonnêteté dans l'exercice de ses fonctions. Nous avons vu l'attitude très équilibrée et consciencieuse de ce grand homme d'État, ce haut fonctionnaire, Daniel 6, cet équilibre entre la piété et la qualité du travail, l'importance de la fidélité qui commence dans les petites choses. Et c'est sur cette dimension-là que nous avons terminé hier soir, en remarquant combien nous glissons généralement en démarrant avec de petits compromis. Et petits compromis, eh bien, c'est une faille, cela fragilise notre désir de vivre dans la sainteté, et dans cette faille, le diable va travailler à l'élargir, et on peut aller très loin ainsi. J'ai sous les yeux un autre texte très intéressant sur l'importance des petites choses. Nous allons encore en parler un peu parce que je crois que c'est très important. Quelqu'un écrit ceci: le rejet des petites méchancetés, des petits péchés, des petits écarts de conduite, des petites faiblesses, des petites folies, des petites indiscrétions et imprudences, des petites marottes, des petites complaisances de la chair, des petits signes d'indolence, d'indécision, de paresse et de lâcheté, des petites tergiversations et déformations de l'intégrité absolue, des petits gestes mesquins et déplacés, des petites indifférences aux sentiments et aux désirs d'autrui, des petites manifestations de colère, de mauvaise humeur, d'égoïsme ou de vanité. Le rejet de toutes ces petites choses constitue au moins le beau côté négatif d'une vie sainte. Une petite chose est une petite chose, mais la fidélité dans les petites choses est une grande chose. Et c'est valable dans la vie professionnelle, c'est valable à la maison, c'est valable dans la vie de l'église locale, parce que très souvent dans l'église locale, on est entre frères et sœurs, hein, alors on peut se permettre, non ? C'est valable partout, et je crois que si nous prenons des libertés même dans notre vie d'église locale, ça sous-entend trop souvent que nous en prenons sur le lieu de notre travail. Tout se tient. Il n'y a pas de raison, là aussi, d'effectuer des cloisonnements entre une qualité de vie à quelque part, dans le domaine des petites choses, et un laisser-aller en d'autres lieux. Vous avez certainement, pour la plupart d'entre vous, entendu parler du célèbre pasteur Oberlin, et il est intéressant de lire à son sujet bien des choses. On n'est pas d'accord avec sa théologie, elle est quelque peu problématique, mais il était un exemple dans, non seulement dans sa vie personnelle, mais dans certains domaines de l'éducation qu'il voulait donner à ceux qui l'entouraient dans sa grande paroisse, là-bas du banc de la Roche. Et il devait un jour écrire une lettre à un homme qui n'avait aucune instruction. Et quelqu'un observa le soin minutieux avec lequel il écrivait et lui dit « Mais pourquoi vous donnez-vous tant de peine ? Cet homme est si inculte qu'il ne sait pas distinguer une belle écriture d'une écriture négligée. » Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui ? Oberlin répondit « Jésus regarde par-dessus mon épaule. Je trace mes lettres pour lui. Ne devrais-je pas en faire de belles ?» Et à une autre occasion, il disait aux membres de sa paroisse, « Quand vous écrivez, formez chaque lettre parfaitement pour la gloire de Dieu. » Petite chose dans nos vies, mais combien importante. Je pense à ce qui s'est passé il y a un certain nombre d'années, et à l'époque où je servais le Seigneur avec mon épouse en Bretagne, pendant une dizaine d'années, c'était l'époque où une célèbre imprimerie à Rennes s'occupait de l'impression des feuilles d'impôt. Ça a changé d'endroit depuis, mais à cette époque, c'était fait au même endroit que, d'ailleurs, les calendriers de la bonne semence. C'est intéressant. J'espère qu'il n'y avait pas de confusion dans ce domaine. Et cette imprimerie envoie des stocks impressionnants de feuilles d'impôt imprimées, donc à l'administration. Et l'administration qui reçoit ces feuilles se rend compte qu'on avait simplement oublié un astérisque, vous savez, ce petit signe de renvoi, en bas de page. Et pendant que l'impression continuait, l'administration a téléphoné pour signaler cet oubli et demander réparation. Vous vous rendez compte ? Tout petit signe. Alors on a renvoyé à Rennes ces dizaines, centaines de milliers d'exemplaires, tout ce qui était déjà imprimé et coupé. L'imprimerie a dû mobiliser tout son personnel, y compris les retraités, les apprentis, pour mettre l'astérisk à la main sur les pages déjà coupées avec un petit timbre en caoutchouc. Le responsable de la faute, lors de la relecture des textes, a été rétrogradé. Et je pourrais vous raconter, j'ai accumulé dans mes fichiers une quantité d'histoires très impressionnantes sur les conséquences des petites fautes dans nos vies. Je pense à la navette Columbia dans le programme spatial des États-Unis. C'est l'encrassement d'un filtre du système hydraulique qui a provoqué des dégâts et fait sauter en quelque sorte cette dimension du programme spatial. Il eût fallu simplement changer 5 litres d'huile qui ne valait que $25. Le contretemps a cependant coûté environ 3 millions de dollars par jour aux contribuables américains. Je pense à la fusée Saturne dans les années 60, qui a explosé elle aussi, tout simplement parce que quelqu'un avait oublié d'enlever une housse dans la fusée. À une autre occasion, on a perdu un satellite très coûteux parce qu'il manquait un signe de ponctuation dans son programme d'ordinateur. Ailleurs, et j'ai lu l'histoire, j'ai lu ce livre très intéressant intitulé Apollo 13, et vous savez que tout Apollo 13 est construit autour de ce problème d'une petite cascade d'erreurs et de négligence qui, à l'origine, le plus gros problème semble avoir été un court-circuit causé par un bout de fil qui valait environ, disons, un $0.5. Et quand on pense à ce que cela représentait que le retour de ces astronautes en difficulté, on se pose des questions. J'ai ici sous les yeux, tiré d'une revue, le problème qu'a connu Ariane lors de son 36e vol au printemps 1990, une semaine après l'annonce de la responsabilité d'un chiffon dans l'échec du 36e tir d'Ariane, le mystère demeure. L'éclatement en vol de la fusée dans la nuit du 23 au 24 février dernier est bien dû à un vulgaire bout de tissu dont la présence n'a toujours pas été expliquée. Il s'agit d'une sorte de torchon de 30 cm de longueur noué en deux endroits qui a bouché une canalisation d'une pompe alimentant en eau l'un des quatre moteurs, lequel a perdu toute sa puissance 6 secondes après le décollage, entraînant la destruction de la fusée. C'est en examinant les débris du moteur repêchés par les plongeurs dans les fonds boueux de la côte guyanaise que les experts de la commission d'enquête ont découvert le poteau rose. Le tissu en question serait du même type que ceux dont on se sert dans les ateliers mécaniques de Kourou, notamment pour le lustrage des peintures. Et ça continue, le texte est extrêmement intéressant dans ce domaine. C'est Charles Dickens qui a écrit « Le secret de ma réussite, c'est d'avoir toujours accordé aux petites choses que j'ai entreprises la même attention qu'aux grandes. » Alors ceci dit, à cause de certains tempéraments pointilleux, maniaques à l'envie, très attachés à la fidélité dans les petites choses, je crois qu'il me faut ajouter que Dieu nous demande tout de même de travailler, je dirais, dans le repos. Vous savez, par exemple, ce verset d'Ésaïe 26, verset 12, qui s'applique aussi à notre vie professionnelle. Ésaïe 26, verset 12, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » C'est aussi très important de vivre dans le repos, disons dans une vigilance paisible. Parce que le danger est grand. Quand on a le souci d'être fidèle dans les petites choses, le danger est grand de tomber dans un travers facile qui est celui d'une sorte de légalisme des petites choses. On divinise en elle-même l'importance des petites choses. On tombe dans la scrupulite, dans le perfectionnisme. Nous devons quand même nous souvenir que la perfection est pour le ciel. Et moi-même qui suis amené à assez souvent m'occuper de correction de manuscrits, de livres en cours d'écriture, je me rends compte qu'il faut bien que même dans le domaine de mes corrections, je m'arrête quelque part. Quand j'écris un livre, Il faut aussi qu'à un moment donné, je me dise, je ne peux pas continuer à travailler, à affiner, à transformer, parce que vous risquez de faire tourner votre maison d'édition en bourrique et puis l'imprimeur en bourrique et de ne jamais voir sortir un livre. Alors il faut faire attention dans ce domaine. Il y a un verset dans le livre de l'Ecclésiaste qui peut très bien se comprendre dans cette direction lorsque il est écrit « Ne deviens pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage, pourquoi te ruinerais-tu » On peut, par souci de choses bien faites, être toujours en train de pinailler sur tout. Et vous avez même des églises locales dans lesquelles vous avez le champion du travail fait à la perfection et qui ne laisse pas un seul instant l'église en repos. Il n'est là, semble-t-il, que pour souligner tous les petits travers. Et il n'y a rien de plus désagréable et de plus anti-CNP que ces personnes qui pensent qu'il faut absolument que tout dans les moindres détails soit nickel. Dans un livre remarquable que j'apprécie beaucoup, Éveil à la grâce, l'auteur évoque la quête de l'excellence. Ce souci qu'ont certaines personnes de l'excellence, qui en lui-même n'est pas mauvais, mais qui présente des dangers. Et l'auteur écrit « La quête de l'excellence entraîne une attitude d'intolérance. Il n'y a aucun mal à viser l'excellence. Ceux qui la poursuivent font la guerre à la médiocrité, à la paresse, à l'incompétence. Toutefois, on ne peut nier certains inconvénients comme la tendance à l'intolérance. Si nous travaillons pour quelqu'un qui recherche l'excellence, nous comprenons sans peine la signification de ses propos. Nous allons découvrir que la marge d'erreur se révèle quasi inexistante. Taire une erreur est hors de question. Toutes les fautes, si petites soient-elles, doivent être corrigées. Un projet, même bien réalisé, peut être encore amélioré. » Vous savez qu'il y a des personnes, des collègues de travail qui peuvent faire de la dépression et vivre des situations extrêmement déstabilisantes, nerveusement parlant, simplement parce qu'elles ont à côté d'elles un reproche vivant permanent. Elles ne savent vraiment plus finalement comment elles doivent agir et réagir. Il fallait le dire pour ceux qui seraient tentés là aussi par les extrêmes. Toujours dans cet ordre d'idées, il vaut la peine de donner quelques exemples dans l'histoire du souci de qualité, de travail, d'honnêteté. Par exemple, au XVIe siècle, en France, lorsqu'on parlait des Huguenots, de ceux qui ont tellement souffert à cause de leur foi, on avait une expression proverbiale « honnête comme un huguenot ». Et j'ai relevé une petite histoire très intéressante qu'a raconté Ruben Sayens, cet homme de Dieu qui fut le fondateur de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, un évangéliste absolument remarquable, un chantre et poète hors pair, et qui, lors de l'assemblée annuelle du musée du désert, et vous avez sans doute entendu parler de ce lieu de rassemblement du protestantisme français dans le sud-est, dans les Cévennes, le 6 août 1922, Ruben Sayens raconte cette histoire à l'assemblée annuelle du musée du désert. C'est l'histoire d'un prédicant, donc d'un prédicateur, on les appelait prédicants à cette époque. Un jour, sur une route des Cévennes, deux soldats de la maréchaussée l'arrêtent. Et l'un d'eux, l'examinant attentivement, un signalement à la main, lui dit « Vous êtes un tel, nous avons ordre de vous arrêter. » Le prédicant hésite un instant, puis répond « Vous vous trompez, je ne suis pas l'homme que vous cherchez. » Le gendarme insiste, mais son compagnon lui dit « Écoute, si c'était lui, il se dénoncerait car les prédicants huguenots ne mentent jamais. » L'argument porta. On laissa partir le pasteur du désert. Le désert, c'était donc toute cette région qui était appelée ainsi parce qu'il y avait une situation de similitude, d'ailleurs avec le désert dans les Écritures. Et donc, on laisse partir cet homme, ce pasteur du désert. Il continua sa route vers l'assemblée qu'il devait présider quelque part dans la montagne, mais le cœur lourd, une pierre sur la conscience. Ils ont eu confiance en moi. Ils disent qu'un huguenot ne ment jamais, j'ai menti. Alors, n'y pouvant tenir, il tourne bride, poursuit ses poursuivants, les atteint et leur dit « Je vous demande pardon, je vous ai trompé, je suis bien un tel. » Arrêté, il fut bientôt condamné et exécuté. Et Ruben Sayens de conclure « Voilà de quelle étoffe étaient faits les hommes de Dieu dont nous honorons la mémoire. » J'ai évoqué hier soir et avant-hier soir John Wesley, ce fondateur du méthodisme, cet homme de Dieu dont Dieu s'est servi pour un réveil spirituel très profond et qui a vraiment touché toutes les couches de la société britannique et qui a certainement évité au peuple de Grande-Bretagne de vivre la révolution violente ou les révolutions violentes successives que nous avons connues en France. L'évangile est passé par là, ça a été extraordinaire et j'ai là un témoignage qui est très beau à ce sujet concernant le fruit de ce réveil spirituel du XVIIIe siècle qui a touché une société qui était terriblement corrompue, l'ivrognerie, l'immoralité, bref, ce n'était vraiment pas joli à cette époque en Grande-Bretagne. Et un auteur de résumer les fruits de ce réveil de cette manière: un souffle nouveau de moralité, de justice et de liberté transforma toute la société. Il en résulta une nouvelle façon de vivre pour l'ensemble de la population, marquée par une scrupuleuse honnêteté, une conscience professionnelle, une vie familiale exemplaire, le sens des responsabilités civiques. Un grand nombre d'œuvres charitables et éducatives se créèrent. Des réformes législatives furent réalisées pour la liberté de conscience, le régime pénitentiaire, etc. L'ouvrier anglais, naguère brutal et ingouvernable, devint, sous l'influence des idées religieuses du réveil méthodiste, rangé, laborieux, attaché à son foyer et jaloux de sa dignité d'homme. Son intelligence s'aiguisa par la lecture et la méditation de la Bible. En même temps, sa condition s'améliorait par l'économie et la sobriété. Influence des Écritures, de l'Évangile, du souffle de Dieu, l'action de son esprit sur toute une population. Là aussi, j'aimerais extraire un court passage d'un livre concernant Oberlin, qui est très intéressant. C'est le contenu d'une prédication du 15 août 1767 où Oberlin prêche la grandeur des petites fidélités et encourage ses paroissiens en ces termes. Le valet, ramassant de la boue pour le compte de son maître ou chargeant le fumier, spiritualise ses travaux s'il les fait avec toute la fidélité possible devant Dieu. Le cultivateur chrétien, raffinant sur tous les moyens d'améliorer la culture des terres afin de porter plus loin les fruits de son labeur parmi ses compatriotes et de les instruire par son exemple à quitter la nuisible nonchalance et à bien faire l'œuvre que Dieu leur a confiée, spiritualise et éternise ses travaux champêtres. C'est intéressant de voir le souci d'Oberlin quand on lit son histoire et le contenu de ses prédications, son souci d'encourager ces croyants à avoir une qualité de vie, une qualité de travail, une qualité de relationnel, une qualité de communication. Je crois que même si sa théologie était problématique à quelque part, nous avons certainement bien des choses à apprendre de lui. J'ai là un autre exemple. Je crois que tout ça est destiné à nous aider. Dieu peut se servir d'une petite histoire pour nous toucher à quelque part. Je pense à ce fondateur de ce qu'on appelle encore d'ailleurs les unions chrétiennes de jeunes gens, les UCJG, qui hélas ne sont plus évangéliques aujourd'hui. C'est dramatique, révolution, comme beaucoup d'œuvres évangéliques au départ. Ce pionnier, George Williams, qui était un authentique enfant de Dieu et qui a été à la base de cette union chrétienne jeune gens, véritablement évangélique, vraiment dans son fond, qui a vécu donc de 1821 à 1905, a commencé par être apprenti drapier à partir de l'âge de 15 ans. Puis il est arrivé à Londres en 1841, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans, pour y être embauché toujours comme commis drapier. Puis 2 ans plus tard, nous avons un texte dans lequel il réfléchit à l'exercice de son métier. Il a donc 22 ans. Je précise que quand on lit l'histoire de George Williams, on se rend compte que les conditions de vie et de travail à son époque étaient odieuses. C'était terrible. Il faut lire un peu cela pour se rendre compte dans quelles conditions ces ouvriers travaillaient. Et écoutez-le. Mon devoir dans les affaires, être juste. Agir avec justice dans les transactions. Être honnête dans les achats. Ne jamais mentir ni déguiser la vérité. Mon devoir envers mes employés, être bon, patient, aimable, respectueux. Ne jamais reprendre l'un d'entre eux devant les autres. Oh mon âme, mes collaborateurs croient-ils à ma sincérité? En quoi mon action journalière diffère-t-elle de celle de mes collaborateurs? Suis-je plus patient, plus indulgent? Les méchants glorifient-ils Dieu à cause de moi? Que dois-je faire? Me reposer constamment sur Dieu. Il me dit de me mettre en peine de rien, mais de lui présenter mes demandes par des supplications et des prières. Oh, je suis loin, loin d'avoir ainsi vécu. J'aurais dû demander à celui qui m'a mis aux responsabilités tellement de sagesse et de force pour les glorifier. Seigneur, augmente-moi la foi. Je ne craindrai rien. Tu me rassures. Je veux être droit et saint dans les affaires, les entreprenant et les poursuivant pour Christ. Ô Dieu, tu m'as donné l'argent. Donne-moi un cœur qui sache l'utiliser selon ta volonté. Je veux l'employer pour toi et demande ta sagesse pour en faire bon usage. On n'est pas étonné que, dans sa grâce, Dieu ait utilisé George Williams pour un véritable réveil spirituel au sein de la jeunesse de son époque. Des jeunes par milliers ont découvert Christ, mais ils avaient en George Williams quelqu'un qui avait vraiment le souci d'une qualité de vie personnelle et de vie professionnelle absolument remarquable. Autre texte, également d'un homme qui a beaucoup marqué notre siècle, même si nous ne sommes pas d'accord avec sa théologie, puisque c'était ce qu'on appelle un universaliste, qui semblait laisser entendre que Dieu avait tellement d'amour que tout le monde devrait se retrouver dans le ciel. Il s'agit de Martin Luther King. Et Martin Luther King a tout de même écrit des choses très intéressantes dans certains domaines. Et je vous donne simplement un extrait. De toutes parts, écrit-il, nous sommes appelés à travailler sans repos, nous comprenons, faut faire attention, pour exceller dans notre carrière. Tout le monde n'est pas fait pour un travail spécialisé. Moins encore parviennent aux hauteurs du génie, dans les arts, dans les sciences. Beaucoup sont appelés à être des travailleurs dans les usines, les champs et les rues. Mais il n'y a pas de travail insignifiant. Tout travail qui aide l'humanité a de la dignité, a de l'importance. Il doit donc être entrepris avec une perfection qui ne recule pas devant la peine. Celui qui est appelé à être balayeur de rue doit balayer comme Michel-Ange peignait, ou comme Beethoven composait, ou comme Shakespeare écrivait. Il doit balayer les rues si parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre s'arrêteront pour dire « Ici vécut un grand balayeur de rue qui fit bien son travail ». C'est ce que voulait dire tel auteur quand il écrivit « Si tu ne peux être peint au sommet du coteau, sois broussaille dans la vallée, mais sois la meilleure petite broussaille au bord du ruisseau. Sois buisson si tu ne peux être arbre. Si tu ne peux être route, sois sentier. Si tu ne peux être soleil, sois étoile. Ce n'est point par la taille que tu vaincras, sois le meilleur, qui que tu sois, quoi que tu sois. » Et Martin Luther King de simplement terminer en disant « Examinez-vous sérieusement afin de découvrir ce pourquoi vous êtes fait et alors donnez-vous avec passion à son exécution. » Un dernier exemple avant d'aller plus loin, comme ça nous aurons quelques échantillons dans toutes sortes de directions qui pourront nous permettre de nous identifier à certaines situations. Je pense, j'aurais aimé avoir, ça m'arrive de temps en temps d'avoir cela dans ma trousse, mais en ce moment ce n'est pas ma marque, dentifrice Colgate à la chlorophylle, vous connaissez, hein? Alors, Colgate, c'est très intéressant, parce que Colgate est le nom du premier fabricant de ce dentifrice, et voilà un résumé de son histoire. William Colgate avait 16 ans lorsqu'il laissa la maison paternelle pour aller chercher du travail ailleurs. Il avait pour tout bagage un baluchon de linge qu'il tenait à la main. En chemin, il croisa le capitaine d'une péniche, un de leurs anciens voisins. « Tiens, William, où vas-tu de ce pas ?»« Je n'en sais rien, monsieur. Vous connaissez notre triste condition de vie. Père ne peut ni m'habiller ni me nourrir, et je dois aller vers la ville pour essayer de gagner ma vie. Mais je ne sais pas faire grand-chose. À la maison, j'ai des pères à fabriquer du savon et des chandelles. Permets que je te donne un conseil, lui dit le capitaine. Mais avant tout, prions un moment. Puis le capitaine dit au garçon, dans peu de temps, à New York, va être nommé un responsable pour la fabrication du savon. Ce quelqu'un peut être toi, comme n'importe qui. Sois un homme intègre dans le travail qu'on te confiera. Fais ton travail sans tromper sur la marchandise. N'oublie jamais de réserver quelque chose sur ton salaire pour le donner à Dieu. Je suis certain que tu réussiras. » Arrivé dans la grande ville, notre jeune Colgate trouva qu'il était bien difficile de trouver du travail. Seul, loin de sa chère famille, il se souvint sans cesse des derniers mots de sa mère. « Prie, garde confiance dans le Seigneur. » Il s'y conforma et trouva enfin un petit emploi dans une savonnerie. Son premier salaire fut de 5 $. Il se rappela le conseil du capitaine de la péniche. « N'oublie jamais de réserver quelque chose de ton salaire pour le donner à Dieu. »« Donner ?» se dit-il, « mais combien ?» Il ouvrit sa Bible. Il lut que Dieu demandait à son peuple le dixième de leur revenu. « Eh bien, je ferai ainsi. » Et il s'ouvrit toute grande la porte de la bénédiction. Ouvrier intègre, il fut remarqué par ses chefs qui lui donnèrent de l'avancement et d'avancement en avancement, il devint associé dans l'usine. Mais à chaque étape de sa situation, Colgate prélevait une part pour le Seigneur, il doubla cette part, il la tripla, il la quadrupla, la quintupla, en un mot, il offrait à Dieu 50% de son salaire. La bénédiction de Dieu reposa sur lui et sa famille. Il fit des plans pour sa vie, les réalisa. Quand son associé mourut, il resta à la tête d'une affaire très prospère. Suivant les sages conseils du capitaine, il s'efforça de fabriquer des produits de qualité. Et au fur et à mesure que l'argent entrait, il en réservait une part toujours plus grande au Seigneur, auquel il attribuait sa réussite. Chaque fois que vous vous brosserez les dents, désormais, vous aurez une histoire à vous remémorer. Nous sommes appelés à travailler pour l'honneur de Dieu. Travailler pour l'honneur de Dieu. Apprendre à être les reflets d'un Dieu qui travaille bien. Vous savez quel est le grand refrain qui jalonne le récit de la création dans Genèse chapitre 1er? Dieu vit que cela était bon. Dieu travaille bien. Et nous sommes appelés, Éphésiens 5.1, à devenir les imitateurs de Dieu. Christ travaille bien. Christ travaille merveilleusement bien. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie avec Christ, que nous considérons le travail de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, de Dieu le Père dans notre vie, nous sommes émerveillés par la manière dont Dieu travaille. Travailler aussi dans un bon esprit. Bien travailler, mais travailler aussi dans un bon esprit. Ceci nous est souligné dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 23, nous l'avons lu ces deux derniers soirs. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Éphésiens 6, 7 parle de travailler de bon gré, de travailler avec empressement, sans, c'est-à-dire en fait, non en contestant, en rechignant tout le temps, que nous ne soyons pas des machines à vapeur avec leur soupir permanent. Je signale d'ailleurs, c'est intéressant, que les exhortations qui figurent par exemple dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 7 auquel je viens de faire allusion, servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, s'inscrivent dans un contexte général. Je ne puis pas, en efforts héroïques, prendre d'assaut les célestes portiques. Il faut que mes repas soient préparés et que mes planchers proprement récurés. Eh bien, rends-moi sainte dans ma cuisine. Que ton amour l'emplisse et l'illumine. Éloigne-en les plaintes et les cris. Jadis, par toi, des gens furent nourris. Tu pris plaisir à remplir cet office. Agrée, ô Dieu, montre très humble service. J'ai sous les yeux l'histoire d'un vieux cordonnier qui reçut un jour la visite d'un pasteur qui semblait considérer qu'il faisait un travail qui n'avait pas tellement de valeur. Et l'homme de simplement corriger gentiment le pasteur en montrant du doigt une devise qui était placée au-dessus de son établi et qui disait « Cordonnier par la grâce de Dieu ». Cordonnier par la grâce de Dieu. Si nous pouvions, même dans l'exercice de notre métier quel qu'il soit, ajouter cette petite expression « par la grâce de Dieu ». J'ai ici aussi un extrait d'une interview donnée en octobre 1983 par un grand restaurateur d'un grand restaurant de New York, le Lutèce, et le patron de ce restaurant, le chef, de raconter « Il y a plus de 30 ans que je suis chef. Je connais mon travail. Et chaque jour, je le fais le mieux possible. Je cuisine pour vous avec mon cœur, avec amour. Le garçon aussi doit servir avec amour pour que les mets prennent toute leur saveur, vous comprenez ? Il m'arrive souvent de quitter mes fourneaux et d'aller prendre moi-même les commandes. C'est là que commence le repas. Le client doit se sentir bien, sinon sa soirée est gâchée, la mienne aussi d'ailleurs. Comment peut-il apprécier ce qu'il mange s'il n'est pas détendu ? Les gens me demandent sans arrêt quel est mon secret. Je leur dis qu'il n'y a rien de mystérieux à propos du Lutèce. Je mets l'amour dans mes casseroles. C'est tout. Mettre l'amour dans les casseroles. Travailler par amour pour le Seigneur et pour ceux que l'on sert. Une petite histoire encore, celle d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, Samuel Chadwick, qui fut un homme de prière, un directeur de collège biblique pendant de longues années, au début de ce siècle, jusqu'en 1932. Et cet homme de Dieu se convertit en 1870, à l'âge de 10 ans. Alors il a raconté comment cela s'est passé. Lors de la fête annuelle de l'école du dimanche, on raconta l'histoire de John Newton, qui disait, nous avons un livre, une biographie sur John Newton, qui est sorti en français ces toutes dernières années, qui disait que s'il était un cireur de chaussures, il serait le meilleur cireur du village parce qu'il ferait son travail pour Jésus-Christ.
À ces mots, le jeune Samuel Chadwick dresse soudain l'oreille, car à la maison, c'était lui qui devait cirer les chaussures de son père. Et ça, il n'y avait pas que lui, je me souviens dans mon enfance, tous les matins, j'étais au boulot. C'était comme ça, c'était la règle. On était d'office cireur de chaussures pour papa, etc. Et il dit, j'avais horreur de faire les chaussures. En particulier les Wellington de mon père. La fête annuelle était tombée sur un jour de pluie. Si bien que le lendemain, la corvée de chaussures était particulièrement rebutante. Je commençais par les Wellington, partant du principe que la partie la plus ennuyeuse d'un travail doit être attaquée en premier. C'est bien. Lorsqu'elles furent propres, je les reposais avec soulagement. Mais en les regardant, je me souvins de ce qu'avait dit le prédicateur au sujet des chaussures à cirer, comme si c'était Jésus qui allait les mettre. Et ce fut pour moi comme un défi à relever. Je me demandais si ces Wellington auraient belle allure aux pieds de Jésus. En guise de réponse, je repris les chaussures et recommençai. Ce fut une chose toute simple, mais je crois que c'est la plus importante que j'ai faite de ma vie. Je pris l'habitude d'accomplir même les tâches les plus simples comme étant pour Jésus-Christ. Un autre exemple d'un homme de Dieu qui a beaucoup marqué le peuple de Dieu, outre-mer, outre-Atlantique, et qui travaillait, lui, pour un fabricant de chaussures chrétiens. Et la tâche du jeune, Harry, consistait à préparer le cuir pour les semelles. Il taillait un morceau de peau de vache de la bonne grandeur, le trempait dans l'eau, le battait ensuite avec un marteau à tête plate jusqu'à ce qu'il soit dur et sec. C'était très fastidieux et il aurait bien aimé pouvoir s'y soustraire. Harry se rendait souvent à un autre magasin de chaussures du voisinage pour regarder travailler l'employé du concurrent. Cet homme ne battait pas le cuir après l'avoir trempé dans l'eau. Il le clouait plutôt immédiatement aux souliers qu'il était en train de fabriquer. Un jour, Harry s'approcha du fabricant de chaussures et lui dit « J'ai remarqué que vous posez les semelles quand elles sont encore mouillées. Sont-elles aussi bonnes que lorsqu'elles ont été battues ?» Avec un clin d'œil et un sourire cynique, l'homme répondit « Non, mon garçon, mais de cette façon, elles me reviennent plus rapidement. » Le jeune Harry courut chez son patron et lui suggéra qu'il perdait leur temps en asséchant si soigneusement le cuir. En entendant cela, son employeur prit sa Bible, lut Colossiens 3, 23, que nous avons lu tout à l'heure, et dit « Harry, je ne fabrique pas des chaussures seulement pour gagner de l'argent. Je le fais pour la gloire de Dieu. Au tribunal de Christ, si je devais voir chaque chaussure que j'ai faite, je n'aimerais pas que le Seigneur me dise « Dan, ce n'est pas du bon travail. Tu n'as pas fait de ton mieux. Je voudrais plutôt voir son sourire et l'entendre dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Et c'est une leçon pratique de morale chrétienne que cet homme de Dieu n'oublia jamais. J'ai dans ma bibliothèque un petit ouvrage très ancien qui n'est plus publié et qui raconte les réflexions personnelles de ce que je considère véritablement comme un homme de Dieu qui est né vers 1608 dans un ordre catholique, dans l'ordre carmélite, un frère Laurent de la Résurrection, qui est mort le 12 février 1691. Et il y a des réflexions de la part de vraiment cet homme de Dieu, je le crois, qui sont extraordinaires. Il a souffert pendant 25 ans de sciatique tenace qui l'avait rendu boiteux. Il faisait un travail très pénible comme cuisinier. Et il faisait souvent le travail pour deux. Et il écrit notamment ceci, écoutez. Les travaux matériels ne le détournaient pas de sa contemplation. Le temps de l'action, disait-il, n'est point différent de celui de l'oraison, de la prière. Car, c'est le langage de l'époque, je possède Dieu aussi tranquillement dans le tracas de ma cuisine où quelquefois plusieurs personnes me demandent en même temps des choses différentes que si j'étais à genoux devant l'autel. Il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses à faire. je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. Quand elle est achevée, si je n'ai rien à faire, je me prosterne par terre et adore mon Dieu de qui m'est venue la grâce de la faire, après quoi je me relève plus content qu'un roi. On cherche des méthodes pour apprendre à aimer Dieu. On veut y arriver par je ne sais combien de pratiques différentes. On se donne beaucoup de peine pour demeurer en la présence de Dieu par quantité de moyens. N'est-il pas bien plus court et bien plus droit de tout faire pour l'amour de Dieu, de se servir de toutes les œuvres de son état pour le lui témoigner et d'entretenir sa présence en nous par ce commerce de notre cœur avec lui? Il n'y faut point de finesse. Il n'y a qu'à y aller bonnement et simplement. Voilà un certain nombre d'illustrations très concrètes dans toutes sortes de domaines qui peuvent nous aider aussi et nous encourager. Quelqu'un écrit « La plupart d'entre nous abordent le travail et les affaires, voire la vie en général avec l'attitude. Que puis-je en tirer ? Plutôt que puis-je donner ?» C'est pour cela que nous avons lu ce texte de Matthieu 20, de 26 à 28, pour nous rappeler que notre travail, quel qu'il soit, est un service de Dieu en servant notre prochain. Comme Christ est venu travailler sur la terre pour nous servir par amour. Et cela voudra dire quelque chose de très important. C'est que je ne jugerai pas les autres en fonction du salaire qu'ils perçoivent ou du pouvoir qu'ils exercent, mais en fonction du service qu'ils peuvent rendre. Cela veut dire que l'éboueur est aussi honorable que le PDG. Quelques mots concernant les rapports entre patrons et ouvriers, supérieurs et subalternes, d'après par exemple Colossiens chapitre 3 verset 22. Nous pourrions prendre d'autres textes, mais je pense à Colossiens 3, 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Nous transposons en évoquant là les relations du patron et de l'ouvrier, bien qu'ici, dans ce cadre précis, il était question des relations de l'esclave, de la relation de l'esclave par rapport au maître. Ici, il est question donc d'obéissance, de soumission. Éphésiens 6, 5 parlera de crainte et de tremblement, c'est-à-dire de respect et de sens des responsabilités. Alors là, nous sommes tout à fait à l'inverse du climat actuel dans les rapports entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent en dirigeant. 1 Pierre 2, 18 va même plus loin. Je l'ai laissé entendre, si je me souviens bien, hier soir, lorsque il est dit « serviteur ». Littéralement, d'ailleurs là c'est intéressant, on devrait traduire non pas par esclave ici, mais par gens de maison. C'est-à-dire tous ceux qui gravitent dans la maison et qui ont une responsabilité à tous les degrés et qui sont sous l'autorité du maître, gens de maison, soyez soumises en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Une autre version dira à ceux qui sont acariâtres. Le texte grec dira littéralement à ceux qui ont une scoliose du caractère. Ça veut tout dire, hein ? Qui ont un caractère tordu. Je vous ai dit que j'avais eu un patron à un moment donné qui était un peu de ce genre. On apprend quand même. Ceci dit, respect, sens des responsabilités, vous remarquez qu'il est ajouté, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Vous savez que toute la première épître de Pierre traite du problème de la souffrance, mais d'une souffrance particulière qui n'est pas d'abord les problèmes de santé, mais qui est la souffrance liée directement à notre témoignage pour Christ. C'est-à-dire que s'il est une épître qui concerne notre époque maintenant et qui peut nous permettre de nous préparer à des temps qui vont devenir de plus en plus difficiles et très rapidement, c'est la première épître de Pierre. J'ai terminé l'an dernier toute une préparation de 3 séminaires simplement sur la première épître de Pierre et j'ai été bouleversé par la pédagogie de la souffrance, des tribulations, des pressions liées au fait que je suis disciple de Christ et que je vis dans une société qui me met des bâtons dans les roues. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Obéissance, soumission, mais ceci sans servilité. C'est-à-dire qu'il y a des situations où des ordres peuvent m'être donnés qui sont en contradiction avec la volonté de Dieu. Et quand un ordre m'est donné qui est en contradiction avec la volonté de Dieu, je reste soumis, mais je n'obéis plus. C'est là la nuance entre les deux termes. La soumission est d'abord une question d'attitude, de comportement qui part de l'intérieur. L'obéissance est une attitude active. Et je peux parfaitement rester soumis, c'est-à-dire garder un comportement respectueux de l'autorité, qui ne va pas entrer en rébellion ouverte et mépriser l'autorité, mais simplement dans ce domaine, je ne peux plus obéir. Le problème, c'est que nous avons tendance, quand nous ne sommes pas d'accord, quand on veut nous faire des choses qui ne sont pas selon Dieu, nous désobéissons, mais en même temps, nous avons un comportement qui montre que nous n'avons plus de soumission. Une épouse, dans sa relation de grâce avec son mari, va avoir à cœur d'être soumise. Mais sa soumission ne signifie pas qu'elle va systématiquement obéir à tout. Elle va rester respectueuse de son mari dans des situations où elle sera obligée de lui dire, écoute, dans ces situations-là, non, je ne peux pas être d'accord avec toi. Mais je continue à te respecter. Je crois que c'est là quelque chose d'extrêmement important, de ne pas faire preuve de servilité tout en restant respectueux de ce que Dieu place lui-même, d'ailleurs en autorité, au-dessus de nous. Je me souviens d'histoire que mon épouse a racontée avant de faire sa formation théologique à Bruxelles. Elle a travaillé pendant quelques années dans une grande firme bruxelloise comme secrétaire. Et combien de fois, au début de son emploi, où elle devait transmettre des communications téléphoniques à son patron lui disait ce qui est très courant, à savoir « dites que je ne suis pas là ». Alors, elle disait « comment ? Vous n'êtes pas là, mais vous êtes là !» Comme ça. Si vous connaissez mon épouse, vous pouvez comprendre ce que cela veut dire. Et peu à peu, de cette manière, elle a gagné le respect de son patron. Ça n'a pas été facile. Mais elle lui dit « écoutez, vous êtes là. Comment voulez-vous que je dise que vous n'êtes pas là ? Vous êtes là. Vous me parlez en ce moment. » Bon, elle le disait avec respect. Je pense à un autre exemple qui nous a beaucoup peiné, où nous étions 3 membres du comité national de notre fédération qui rendions visite au président d'une association membre chez lui pour régler certains problèmes. Et il était aussi responsable d'une communauté évangélique tout en exerçant un métier donc séculier. Et juste au moment où nous arrivions chez lui, où il nous recevait dans son salon, le téléphone a sonné, sa femme a décroché, et c'était dans le cadre de son travail que quelqu'un l'appelait. Et il a simplement dit à sa femme, Dis-lui que je suis à la poste. Ça tombait très mal. Hein, nous étions trois à lui tomber dessus. Nous avons essayé de ne pas l'écraser. Mais nous avons fait un bon. Responsable d'une communauté. Alors encore mieux, juste au bon moment. Ce sont des choses qui peuvent nous arriver. Nous devons faire attention dans ce domaine. L'honnêteté paye à long terme. Le Seigneur sait honorer notre fidélité. Et si notre honnêteté nous valait d'être éjectés, cela arrive, et là c'est de plus en plus souvent, nous croyons là aussi que Dieu est grand et que Dieu sait honorer ceux qui l'honorent. L'histoire moderne, actuelle, est tissée d'exemples de la fidélité de Dieu vis-à-vis de ceux qui l'honorent, même lorsqu'ils sont mis sur la touche à cause de leur honnêteté. Travaillez avec un cœur droit. Les textes d'Éphésiens 6 et Colossiens 3 disent avec simplicité de cœur, sans arrière-pensée, en l'absence du patron comme en sa présence, sans tricherie, sans superficialité, sans orgueil, sans chercher à se faire valoir. Et je crois que là, nous avons des questions à nous poser. Ai-je le droit de diminuer la qualité de mon travail par esprit de contestation? Ai-je le droit de gaspiller le temps de mon employeur? Parce qu'on peut volontairement traîner dans le travail. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas aller à l'autre extrême. Il y a des croyants qui sont tellement zélés dans le travail qu'ils travaillent en TGV pendant que d'autres travaillent simplement express et qu'ils finissent par poser des problèmes parce qu'ils sont trop zélés. Alors je crois que là aussi, il faut demander à Dieu sa sagesse pour que notre zèle ne devienne pas un zèle excessif et problématique pour ceux qui nous entourent. Ai-je le droit de critiquer mon employeur derrière son dos, auprès de mes collègues? Ai-je le droit d'utiliser le matériel de l'entreprise pour mes besoins privés, sans autorisation de mon patron, même si je sais que lui le fait, et sans dédommagement? Téléphone, photocopieur, fourniture de bureau, d'ailleurs, il serait tellement important que des règles claires soient établies à l'avance dans la vie d'une entreprise, à ce sujet. Mais là aussi, combien de fois, en tant que disciples de Christ, nous nous laissons piéger par une succession de petites malhonnêtetés parce que tout le monde fait ça sur le lieu de notre travail. Alors nous considérons que c'est une chose normale. Notre garçon, Emmanuel, fait actuellement un stage en entreprise dans le cadre de ses études et nous en avons parlé ensemble. Il a eu l'autorisation de travailler à la réalisation de petits meubles pour lui pendant l'heure des arrêts de repas et nous avons mis aussi une petite stratégie au point pour qu'il soit loyal vis-à-vis du patron de l'entreprise, vis-à-vis de ses supérieurs, de manière à ce qu'il puisse rendre en tant que jeune disciple de Jésus-Christ un bon travail, un bon témoignage dans ce domaine. Ai-je le droit d'établir des rapports d'activité qui ne correspondent pas au travail réellement effectué? Et nous pourrions ainsi poser une quantité d'autres questions très pratiques. Est-ce que je travaille vraiment dans la crainte du Seigneur, comme disent ces textes, sous le regard du Seigneur de ma vie, qui voit tout? 1 Samuel 2, verset 3, « L'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Puis alors, il y a même le cas de figure dans les Écritures du patron qui est au Seigneur. Je travaille pour un patron qui connaît personnellement Jésus-Christ. Alors dans 1 Timothée chapitre 6, versets 1 et 2, il est dit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprise pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'il les serve d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. C'est intéressant. Vous savez, le problème quand on a un patron chrétien, c'est que on abuse vite. Sous prétexte qu'on est entre frères dans le Seigneur, il semble que on ait droit à des privilèges, qu'on ait droit à des passe-droits. Il est facile de mépriser, de regarder de haut et de vouloir avoir des avantages simplement parce qu'on est chrétien. Et très souvent, dans des entreprises conduites par des patrons chrétiens, les plus gros problèmes qu'ont les patrons chrétiens ne sont pas avec leurs employés païens, mais avec leurs ouvriers chrétiens. Et ça, je l'ai vu moi-même. Alors nous avons là un enseignement qui est clair, n'est-ce pas ? Tous ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Vous remarquerez que nous avons lu dans 1 Timothée 6, 1, « Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. » La doctrine. Si vous allez dans Tite 2, 9, 10, dans Tite 2, 9, 10, il est dit « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toute chose, ou être soumis en toute chose, on peut aussi mettre le « toute chose » après « soumission », à n'être point contredisant, à ne rien dérober, intéressant, hein, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. La doctrine de Dieu. C'est intéressant. Nous sommes observés et notre vie en elle-même est un cours de doctrine de Dieu, vraie ou fausse. Et le mot doctrine ici, est, ou le mot honoré est très intéressant parce que c'est de ce mot-là que vient le mot cosmétique en français. Et quelqu'un a commenté le texte de Tite 2.10 en disant ceci, « Les esclaves doivent vivre de façon à être un ornement pour la parole de Dieu. Ils doivent rendre l'évangile attirant. Leur façon de vivre doit faire office de produit de beauté pour l'évangile. » Produit de beauté. Avoir donc une manière de vivre qui soit un produit de beauté, qui rende la doctrine de Dieu attrayante. Quand on pense que souvent le disciple de Christ n'est pas tellement porté sur la doctrine, voilà qu'il devient un enseignant de doctrine de Dieu, simplement par la qualité de sa conduite. Alors nous allons nous arrêter là ce soir. Demain matin, nous verrons encore ce qui s'adresse plus spécialement au patron. Cela nous permettra de répondre à deux ou trois questions concernant les revendications, le syndicalisme, plusieurs questions très intéressantes qui vont tout à fait dans le contexte de la fin de notre étude. Nous parlerons des règlements de compte de la fin des temps. Nous verrons si nous pouvons évoquer, en conclusion, dire quelques mots sur l'importance aussi du repos dans la vie professionnelle. Mais nous verrons si nous en avons le temps. Que Dieu nous aide, les uns et les autres, à nous laisser reprendre, corriger, encourager, exhorter, de manière à ce que, comme cela a été dit en introduction, le Seigneur soit vraiment glorifié par la qualité de notre travail, fidélité, honnêteté, intégrité, dans les petites choses comme dans les grandes, afin que la beauté de Dieu soit perceptible dans notre travail, dans notre vie professionnelle. Nous voulons prier. Seigneur, merci. Merci encore pour tout ce que tu nous dis de manière si pratique, qui nous rejoint dans nos vies de tous les jours. Merci parce que tu t'intéresses à notre quotidien. Oh, sois vraiment le Seigneur dans notre vie personnelle. Que notre vie soit une vie de saveur pour ceux qui nous entourent, qu'ils puissent, au travers de notre comportement, te toucher du doigt, réaliser la beauté de ta personne. Seigneur, dans ce monde où tout va de travers, dans ce monde où les valeurs précieuses de l'Évangile disparaissent si vite, combien notre témoignage peut être parlant par l'extrême différence entre la vie du disciple de Christ et la vie de celui qui ne l'est pas. Seigneur, aide-nous à être une lumière dans l'obscurité du lieu peut-être où nous travaillons. Merci de te tenir près de nous, de nous visiter. Nous avons peut-être ce soir à te demander pardon. Nous avons peut-être à régler certaines questions, certains problèmes d'honnêteté, de manque d'intégrité. Seigneur, merci parce que le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, afin que l'on ait un profond respect vis-à-vis de toi. Alors donne-nous de savoir simplement confesser, délaisser, rectifier le tir, régler tel ou tel problème avec des collègues de travail, avec l'employeur ou avec les employés, ou dans notre travail à la maison, Seigneur. Nous avons parlé de cuisine et de tant d'autres choses tellement pratiques, de cirer des chaussures. Seigneur, aide-nous à être fidèles dans ces petites choses. Garde-nous d'être trop exigeants à l'endroit des autres. Aide-nous, Seigneur, par amour pour toi, à être exigeants dans nos vies, mais à ne pas être durs avec ceux qui nous entourent. Aide-nous à les accompagner, à les aider avec grâce. Nous en avons besoin. Aide-nous à être des encouragements pour ceux qui nous entourent dans leur activité. Merci de bénir le repos de cette nuit. Merci de nous préparer à cette journée de demain mise à part à cause de ton amour pour nous, pour notre équilibre. Merci de la bénir dans les moments de communion avec toi et les uns avec les autres durant la matinée de demain. Nous te glorifions, nous voulons te dire ce soir que nous t'aimons, que nous sommes heureux d'être à toi. Seigneur, visite-nous en Jésus-Christ.